marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Silence !
Attention ! Moteur !
Annonce !
Pamela, un deuxième, un troisième, un cinquième, septième.
La Victorine en chantant.
...2019, c'est le 100e anniversaire, et en même temps, ce sera la relance avec des investissements conséquents. On tourne déjà 300 films par an à Nice, et bien évidemment avec des studios aux normes actuelles, avec le numérique et avec les surfaces conséquentes, nous en ferons sans doute de nouveau les premiers studios français.
Le maire de Nice qui a un certain sens de l'exagération. La Victorine doit son nom à la famille Masséna. Celle-ci avait construit sur les hauteurs de Nice une villa de campagne dans un domaine de 7 hectares qui trouva une nouvelle destination. En 1919, le cinéma. Maréchal d'Empire, Masséna était surnommé l'enfant chéri de la victoire. La Victorine en chantant. En un siècle, le studio a engrangé tant d'aventures qu'il est devenu un mythe. Il a connu tant de cuissants échecs que maintes fois on a pu s'inquiéter de son avenir. La Victorine en déchantant. Cependant, la mairie de Nice a toujours fait le choix de ne pas l'abandonner. Le maire actuel vient de la reprendre, au moins provisoirement. Il a décrété que l'année 2019, année du centenaire du studio, serait celle du cinéma à Nice. Il a confié une mission de conseil à Éric Garandeau, qui a travaillé auprès de Nicolas Sarkozy. Et il ressort du rapport de Garandeau que la Victorine, qui à bien des égards n'est plus qu'un village fantôme, peut redevenir un studio concurrentiel, bien que de taille moyenne. Il lui faudra cependant nouer des alliances, d'abord avec les établissements voisins, les tout jeunes studios de Provence à Martigues, et avec les établissements peut-être du Grand Paris ou ceux situés plus au sud en Méditerranée, Malte, Cinecittà. C'est pas gagné, la tendance à la multiplication des initiatives locales étant plus forte que le désir de fédération, mais si la Victorine paraît bien à l'étroit avec ses 7 hectares cernés par des immeubles, elle garde l'atout de son passé et le prélude à son éventuelle renaissance, c'est d'abord le récit de son histoire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
On sait que les frères Lumière ont découvert rapidement les avantages des tournages sur la Côte d'Azur. L'aménagement de studios en verre, puis fermés, allait assurer les complémentarités nécessaires à l'industrie naissante. Le premier lieu significatif à Nice a été construit par Louis Nalpaz dans une autre villa que la Victorine. Nalpaz s'associe ensuite avec un autre aventurier, Serge Sandberg, et il rachète en 1919 la villa de campagne des Masséna. Et Sandberg reste bientôt seul à bord au début des années 20. Témoignage tardif de son petit-fils dans une nuit magnétique de France Culture, Marc.
Et donc ce grand-père à table dimanche nous disait « Oui, j'ai fondé la Victorine de Nice, tout ça. » Et en fait, dans tous les livres que je consultais en bibliothèque, son nom n'existait pas. Donc je commençais à me poser beaucoup de questions, en me disant « Mais est-ce qu'il fabule ?» Ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est les mystères de la Victorine, si vous voulez. Moi, ça date de quand j'ai 18 ans. Hein. Du vivant de mon grand-père, je ne connais pas ses archives, car elles sont dans sa cave. Et lui descend comme ça, mais seul dans sa cave, voir un peu ses archives anciennes, mais enfin personne ne sait ce qui s'y passe dans cette cave. Et puis quand il décède en 80, enfin disons sa troisième épouse, me dit, si vous voulez écrire l'histoire de votre grand-père, allez dans cette cave et puis prenez tout, et enfin enlevez tout. Alors c'est ce que je fais avec mon père. Et effectivement, alors là je suis sidéré, puisqu'il y a il y a plusieurs paquets enveloppés dans des ficelles avec une sorte de très poussiéreux. Je trouve qu'il y a des crottes de souris. Et il y a marqué Studio La Victorine. Je ramène ça chez moi. J'ose pas ouvrir les ficelles parce que c'est un peu une transgression. Et là, franchement, je commence à lire tout ça. Ça démarre en 17. C'est invraisemblable. C'est des correspondances entre, je sais pas moi, Charles Pathé, Serge Sandberg, Louis Nalpaz. Et on voit vraiment, l'histoire de la Victorine, quoi. Vraiment, la naissance, la genèse, jour après jour. Hein. C'est ce qu'on pourrait appeler une chronique, mais c'est quotidien. entre Paris, l'axe Paris-Nice, parce que lui, Nalpa s'est installé à Nice. À la fois, on voit qu'il fait construire ses studios de cinéma donc, à Nice et qu'il doit en même temps produire beaucoup de films par an. Voilà. Et il tient au courant, par des rapports quotidiens et quelquefois de l'aide jour, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il a le droit de le faire, etc.
La Victorine se situe à l'aplomb du bien nommé quartier de la Californie. D'ailleurs, le premier personnage légendaire de l'histoire du lieu, c'est un Américain, le mirobolant Rex Ingram, qui va succéder à Sandberg. Il intervient au milieu des années 20, réalisateur et producteur lui aussi, et il se sert beaucoup de la piscine qu'il fait creuser et qui va être utilisée pour le tournage de son Mare Nostrum. Et la villa devient son domicile.
Alors, monsieur Nègre, là, c'est la villa au centre des studios, hein, au cœur des studios.
Et oui, ça, c'est une villa qui date depuis 1880. On ne sait pas à peu près la date, moi, je ne la connais pas, mais bon. Après, on l'appelait Villa Rex, parce que Rex Ingram, lui, a habité ici pendant les 4-5 années qu'il est resté.
Alors, Rex Ingram, lui, c'était le premier producteur américain qui est venu,
oui, qui est venu
donc, travailler
qui a,
sur...
Qui a dit, voilà, comment on travaille en Amérique, on fait voir... C'est là qu'il a construit le premier studio, je vous dis, en verre pour que la lumière passe. Mmh. Et c'est tout. Bon, mais ça, c'est mon pauvre père qui me l'a dit. Hein. Je n'ai pas pu. Hein. Mais bon, moi, je l'ai toujours appelé la Villa Rex parce que c'est une habitude.
Un membre de la famille Nègre qu'on retrouvera Baroud. Voici un extrait. C'est un grand film parlant, tourné par Rex Ingram dans deux versions, une française et une anglaise. C'est un film de désert, et dans le désert, on n'entend même plus de deux langues.
Capitaine Labrie, j'espère que vous avez fait du bon travail.
Enfin oui, nous avons rejeté un Europe dans ces montagnes. Ces perfs sont sévères. Il y regardera deux fois avant de revenir montrer son nez par ici. Ahmed, tu peux dire à ton père que la route de sa caravane sera libre pour un bout de temps.
Mon ami André Duval.
L'ami de mon fils est mon ami.
Mais dès les premières années, l'équilibre financier est difficile à obtenir et la marge se constitue, on le constate, par la location de l'éclairage, des accessoires et surtout le tirage des pellicules. Rex Ingram se lasse vite de toutes les obligations qu'un producteur doit remplir. Il reste l'hôte de la villa, le réalisateur prioritaire, mais il cède peu à peu la responsabilité de l'endroit. Puis vient la crise de 29. En même temps, il faut investir dans les équipements nécessaires aux parlants. Le studio passe en 32 pour une période qui va être exceptionnellement longue à la Gaumont. Cette même année, Pabst tourne un Don Quichotte mémorable.
C'est sûrement Merlin l'Enchanteur qui vous a brûlé tous vos livres. Ce bandit de Merlin dont vous me parliez si souvent.
Mon maître. Mon maître.
Je t'ai trompé, Sancho. Je n'avais aucune île pour toi.
Oh, vous n'en faites pas, mon bon maître. Oh. Les îles au fond, voyez-vous. Moi, j'y tire pas.
La défaite, il y a de quoi se lamenter. L'État français s'intéresse beaucoup au cinéma, même si la capitale Paris est découronnée.
Le cinéma français veut revivre. Il doit revivre. De Nice à Marseille, il a recréé, sous l'impulsion du gouvernement, ses bases de production. Au studio de Nice, une nouvelle animation a succédé au silence de ces derniers mois.
La côte méditerranéenne où se sont réfugiés beaucoup d'écrivains et d'artistes de tout poil devient une véritable capitale culturelle. Et les années 41-42 sont fastes pour la Victorine, où on construit des décors moyenâgeux et vertigineux pour le film Les Visiteurs du Soir, sont des décors à ciel ouvert. Et c'est la même chose pour Les Enfants du Paradis en 1943. On se souvient que l'histoire se déroule dans le boulevard du crime parisien de la première moitié du 19e. Eh bien, Trauner, Barsac, Cabuti le restituent tel qu'il aurait pu être, dans la lumière du midi, quitte à y jeter ensuite des ombres, lesquelles ne vont pas manquer pendant le tournage.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri.
Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle. Si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi? Et vous venez à ma rencontre?
Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors?
Alors?
Alors comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant je ne vous quitte plus. Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Les Enfants du Paradis ont été stoppés à la Victorine. Parce que Paul V, qui était notre producteur, qui s'appelait Dicina Film, était associé avec Scalera, qui était un fasciste italien. Et au moment du débarquement des Américains en Afrique, il a fichu le camp avec tout le fric en Italie. Alors le décor, le boulevard du crime qu'on avait construit là-haut en extérieur, on a été forcé d'abandonner à 125 numéros de tournée sur 1400 qu'il y en avait à tourner. On est rentré sur Paris. André Paulvé n'avait plus d'argent pour continuer. Il a vendu l'affaire à Pathé Cinéma. Et on a repris, si je me souviens bien, vers les 4 ou 5 mois après, le film en décor intérieur chez Pathé, à Francœur et Joinville.
Témoignage de Jean Boulet. Achevé à grand-peine, dans les conditions qu'on vient d'entendre, Les Enfants du Paradis ne sortiront qu'en 1945. Au moins, Joseph Cosma, qui avait dû vivre dissimulé pendant l'occupation, peut-il être crédité de la musique au générique? Ça n'avait pas été le cas pour Les Visiteurs du Soir. Auteur des mélodies les plus connues du film, il avait dû les céder à Maurice Thiriet, qui aura beaucoup de mal à le reconnaître par la suite. Les Enfants du Paradis, on les retrouve dans la rétrospective que la Cinémathèque de Paris consacre actuellement au film tourné à la Victorine.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La Victorine, les années 50, celle du renouveau, peut-être les plus belles du studio. Les Américains viennent nombreux, Preminger, Raoul Walsh, Stanley Donen, John Frankenmeyer, George Cukor. Terence Young assure même des fonctions de directeur des studios, comme les frères Michael et Joel Douglas, qui tombent amoureux de l'endroit, et pas seulement de l'endroit. Il n'est de richesse que de femmes et d'hommes. Aujourd'hui, on parlerait de clusters de spécialistes. Les artisans de la Victorine, en effet, font la différence. Ainsi, la dynastie électricienne, déjà citée, des Nègres.
Jean-Claude Nègre, c'est le domaine de la famille Nègre, ici, la mais centrale électrique.
Oui, c'est le domaine, parce que mon père est rentré là en 1925-26, et après je l'ai remplacé en 66-67.
Mais vous aviez cette vocation de chef électricien?
Non. Bon, ça me plaisait l'électricité et tout. Je ne peux pas dire que j'ai fait des études très hautes en électricité, mais c'est un truc qui me plaisait. Donc je l'ai appris sur le terrain et j'ai progressé comme ça, quoi. Mais ça me plaisait. Voilà.
Alors les machines sont quand même assez impressionnantes. Toute cette partie sur la gauche, là, avec les manettes de cuivre, tout ça.
Oui, mais ça, c'est encore les vieilles installations. C'est la grande tradition, ça, oui.
Alors votre journée, comment démarre-t-elle?
Bon, ma journée, vous savez, ça a été des journées, même des nuits entières et même des 24 heures d'affilée, parce que cette époque-là, moi, il m'est arrivé de faire 3 films à la fois, je ne me rappelle plus. On avait listé Laure et Burton sur un film qu'on tournait de nuit. Le matin, j'avais un film où c'est qu'il y avait Nathalie Delon qui faisait 9h-6h. Après, j'avais un film qui faisait midi 7h30 et j'avais un film qui faisait 9h du soir, quoi, disons 21h jusqu'à 6h du matin. Bon, moi, j'allais juste le temps d'aller chez moi, de prendre une douche et revenir, je dormais ici, quoi. J'avais un canapé, quoi. sommelier, j'étais là pour contrôler, c'est tout.
Des fidèles français, Christian Jacques, René Clément, Claude Autant-Lara, Clouseau, avec le mystère Picasso. Tati tourne Mon oncle en 1957.
Où se situe l'action du film ?
Alors, il y a cette villa où habite la sœur de Dulot, enfin, qui est mariée à un industriel qui a tout à fait réussi, en sens que tout marche très bien pour lui. Il a une petite usine charmante et neuve, comme sa maison d'ailleurs, et chez lui tout est neuf. La maison, le jardin, enfin, les livres, tout est neuf.
Ah oui, nous avons l'air conditionné partout. Et il faut que je vous dise, tous les plans ont été dessinés à l'usine de mon mari. Oh, ben c'est original. On peut s'asseoir.
Je vous en prie, c'est fait pour ça.
Ah, oh, mon steak. Bon, alors, 2, 4...
Heureusement, l'ambiance est plus chaleureuse dans les installations d'Henriette, la cantinière.
Les gens du cinéma sont... Ou ils vous acceptent, ou ils ne vous acceptent pas. Et il faut savoir les garder. Alors il faut savoir leur porter beaucoup de choses, de la chaleur, de l'amitié, étant donné qu'ils se dérangent beaucoup, qu'ils sont partis par Mont et par Vaux, il faut qu'ils se retrouvent à table comme si c'était chez eux. C'est une cuisine familiale, une cuisine chaleureuse. Quand les Américains venaient, je savais 3 mois à l'avance que j'étais prise par eux parce qu'ils me téléphonaient 3 mois à l'avance pour me retenir. Et alors, quand je leur faisais ma cuisine, c'était pas la cuisine américaine, c'était la cuisine niçoise et ça leur plaisait beaucoup. Franck Hennemer, par exemple, qui est venu ces jours-ci sur la côte, il m'a appelé, c'était pourtant une cantine parisienne qui est descendue. Il m'a invité parce que j'ai tout fait, tous les films de Franck Hennemer quand j'étais en activité dans le cinéma. Oui.
Ah, donc il y avait la partie studio et puis il y a eu ensuite la roulante.
La roulante.
Alors la roulante,
alors,
ça,
on allait
c'est,
en extérieur.
Ça, c'est autre chose. Alors comment vous organisiez-vous pour faire
Eh bien j'avais un camion aménagé en cuisine et j'avais la toile de tente qui suivait. Alors on arrivait sur le terrain le matin très tôt parce que ça, il fallait qu'on soit prêt pour midi. Alors le matin très tôt, c'était 5 heures du matin, faire les marchés pour pouvoir faire des petits légumes frais, des petits... Parce que le boitage, je ne connais pas et le congelé non plus. C'est tout du frais chez moi. C'est ça la roulante. Il fallait démonter le soir, recommencer le lendemain ailleurs. C'est la vie de bohème. C'est tellement prenant. C'est une vie que je regretterai jusqu'à ma mort. C'est une vie que je regrettais tout le temps, ça. La vie du cinéma.
Interview de Rémi Casals. Un peu plus tard, au printemps 68, Brian Forbes commence le tournage de La Folle de Chaillot. C'est une grosse machine avec Yul Brynner, Catherine Hepburn. On se souvient de l'argument sous la colline parisienne, où soit dit en passant, la Cinémathèque venait d'entrer en ébullition. Un groupe de conspirateurs s'est installé à la recherche de pétrole et de puissance.
Mes respects, mon général. Le repos. Nous avons brisé nos liens historiques avec les États-Unis et avec cette île qui fut autrefois la Grande-Bretagne. Nous n'avons pas toléré de détente ni avec la Russie, ni avec l'Allemagne. Nous restons seuls, fiers, indépendants, glorieux. À l'heure actuelle, après d'homériques sacrifices, notre pays égale les puissances atomiques qui possèdent la bombe. Ma génération vous donne l'assurance, à vous qui recueillez les fruits du labeur de vos anciens, que lorsque viendra l'heure, proche ou lointaine, où l'Europe sera réduite en cendres, la France ne sera pas prise à l'improviste. Et notre bombe explosera comme les autres.
En réalité, mai 68 a failli faire exploser le film. Enfin, qui sort quand même, est-ce bien d'ailleurs. À l'époque, on savait stocker les décors à la Victorine, comme on sait encore le faire à Cinecittà. Aujourd'hui, sur les lieux, c'est un modeste projectionniste qui, de son propre chef, collectionne photos, documents, objets de taille évidemment modeste. Bref, les décors de La Folle avaient été sagement remisés. L'ayant appris, François Truffaut décida de les utiliser pour raconter dans son tournage un autre tournage, avec un jeune premier, une script stagiaire, une star déchue. C'est La Nuit américaine.
Et bien évident qu'on tourne de moins en moins en studio, quoique de tous les studios français, La Victorine a des chances d'être celui qui restera le plus longtemps. Mais enfin, on tourne de moins en moins dans des décors reconstruits comme ça, donc c'était intéressant.
Il y a aussi des allusions à la télévision, je crois, à l'intérieur de votre film.
Forcément, aujourd'hui, on est obligé, quand on parle de cinéma, de faire des allusions à la télévision sous différentes formes. C'est-à-dire, on a des acteurs qui arrivent au milieu du film, qui viennent de faire un feuilleton, donc qui parlent, qui font des comparaisons. On a eu aujourd'hui la collaboration de Maurice Sevenot, et j'en suis très content, qui fait justement le rôle d'un intervieweur de télévision. Et je crois que c'est normal aujourd'hui, ça fait partie des conversations des gens de cinéma.
La Nuit américaine appartient bien sûr au cycle de la Cinémathèque consacrée à La Victorine. L'un des avantages que gardait le studio, c'était sa proximité des lieux magiques de la Côte d'Azur, même si dorénavant, on ne peut plus filmer la mer depuis l'horizon, il y a trop d'immeubles entre le studio et la mer. Woody Allen a été un des derniers à tirer parti de cette complémentarité dans son film inspiré d'Houdini, Magic in the Moonlight.
Les gendarmes, nous les avons. Je voudrais qu'on les mette en place. Fermez-moi les portes, s'il vous plaît. Comment ? On va le tourner, oui. On fait une répétition de mouvement pour tout le monde. Voilà. Silence, les coups de marteau.
Oui, mais à partir des années 70, on tourne de moins en moins de films. Les Américains vont vers le Maroc ou l'Espagne qui pratiquent des prix plus bas. La confidentialité des tournages n'est plus assurée. On voit tout, des fenêtres, des immeubles alentour. C'est à se demander s'il ne serait pas plus simple de vendre à la découpe. Les promoteurs ne demandent que cela. Pour éviter la mort de la Victorine, la ville a racheté le terrain. En 78, le maire Jacques Médecin va plus loin. Il congédie le locataire qui ne tient pas ses promesses.
Vous savez, c'est extrêmement simple. Un bail emphytéotique est un contrat. Ce contrat a été signé par les deux parties, la ville de Nice et le loueur, sous des conditions suspensives. Aucune des conditions suspensives n'a été respectée dans les délais fixés. J'ai fait preuve de beaucoup de patience, et le conseil municipal également, parce que l'industrie cinématographique connaît des problèmes. Nous arrivons aujourd'hui à un moment où il n'est plus possible de maintenir le bail en l'état. Je ne veux pas dire pour autant qu'il n'y aura pas d'autre bail ou que l'activité cinématographique devra cesser.
En 1984, pour une fois, Jacques Lang appuie la mairie de Nice. Il profite de son séjour au Festival de Cannes pour annoncer un futur miroitant de couleurs flatteuses. Mais les exploitants se succèdent sans convaincre. En 1998, c'est André-François Pellegrin, rien mélancolique, qui pilote tant bien que mal le bateau près de s'échouer.
Lorsque Joseph de Racco, le président actuel de la Victorine SA, a repris les studios en mai 95, il a déposé un projet réaliste qui a été accepté par le tribunal de commerce, qui a été choisi par le tribunal de commerce, précisément parce qu'il semblait bien coller aux réalités. Il ne s'agissait plus de faire de l'incantatoire et de rêver, encore une fois, sur le cinéma d'hier ou d'avant-hier, mais bien de savoir comment construire un outil économiquement valable, viable, pour les années qui viennent. Et l'idée a été de dire: il faut refaire au studio de la Victorine aujourd'hui à partir des nouvelles technologies du son et de l'image, et notamment aussi pour la télévision, ce que les créateurs ont fait pour le cinéma au début du siècle.
Euromédia France va reprendre La Victorine. Bon, le film publicitaire est largement prioritaire avant les séries de télévision. Peut-être, mais la série de télévision, comme les ciné-romans au temps du cinéma muet, c'est l'assurance en principe, de production plus longue. Sauf que on n'a pas à Nice plus belle la vie. Nice n'équivaut plus à Marseille.
Mais on commence par l'événement télévisuel de cette rentrée 2008. 5 sœurs, le nouveau feuilleton de France Télévisions qui sera diffusé à partir de lundi sur la 2. Nice est concernée puisqu'il s'agit de l'histoire d'une famille niçoise. De plus, le tournage se déroule à La Victorine.
Allez, ça tourne.
34 sur 8 et 10, 7e.
C'est parti pour 130 épisodes, beaucoup plus en cas de succès. Pour tenir en haleine les téléspectateurs, le scénario repose sur la vie d'une famille, un père et ses 5 filles, les 5 sœurs. Une vie en apparence sans histoire jusqu'au jour où leur demi-frère fait son apparition.
Tiens, mon pote qui fait des percus m'a appelé. Il faut un truc sur la plage ce soir. T'as qu'à venir. Je suis sûr que ça va te défouler. Et puis, ramène Manu. Et je suis sûr que ça va l'éclater.
Mais pour ça, faudrait que je puisse la joindre.
Tu déconnes.
Je te jure. Je crois même qu'elle m'évite. Ça fait au moins 10 jours qu'on n'a pas passé un moment ensemble. Il y a toujours des excuses bidons, là. Elle me prend vraiment pour un cake, hein. T'imagines le délire? Ta gonzesse avec une autre gonzesse?
Plus de vie, plus de lumière. La fin de la série 5 sœurs. Le feuilleton de France 2, tourné à Nice depuis janvier, s'arrête, faute d'audience. Pendant que les uns démontent le décor, d'autres font la fête. Hier à Marseille, l'équipe de Plus belle la vie a célébré le 1000e numéro du feuilleton de la 3. Les 5 sœurs, lui, n'aura pas dépassé les 130.
Et oui, réduction des tournages, baisse du chiffre d'affaires, réduction des investissements. La Victorine redevient un village fantôme. Quand la ville de Nice, pugnace, en reprend la direction, elle-même, c'était en 2017, et y entreprend des travaux d'urgence. 10 plateaux fermés sont encore en état de marche, soit 6000 mètres carrés, mais il manque des plateaux plus grands. Subsistent des loges et des bureaux, mais parfois vétustes, et en matière de post-production, il n'y a presque rien. L'ancien directeur du CNC, le Centre National de la Cinématographie, Éric Garandeau, dans un rapport l'automne dernier à Christian Estrosi, dit « Pour inverser le déclin, il faut nouer des alliances avec les établissements de la région, les Strudeau de Provence à Martigues, tout juste créés et qui disposent d'espaces quasi illimités, la technopole du cinéma de Cannes, dont rêve son maire. » Et Garandeau plaide aussi pour un rapprochement avec le Grand Paris, par exemple Brie-sur-Marne, qu'il conseille aussi, et il faut garder l'œil sur l'horizon méditerranéen. Cinecittà est passé sous le contrôle de l'État italien. Malte a des installations. Il s'ancrait près de Madrid. 7 hectares, c'est bien peu, mais la densité d'histoire à l'hectare, elle est hors de proportion. L'histoire, c'est encore la meilleure arme de l'endroit s'il veut redevenir l'enfant chéri de la victoire. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, avec à la technique Stéphane Boja, à la réalisation Audrey Ripouille, et dans un instant, une rediffusion de La Tête au Carré avec, allez, une de nos invitées chéries, je la cite, Valérie Chansigaud.